Vous écoutez
RMC. RMC. After Foot. Intégrale Coupe du Monde. Intégrale Coupe du Monde.
Gilbert Brivois.
Lionel Charbonnier est là, Daniel Riolo est là également. Il est 23h29 à Auxerre, 1h29 du matin ici à Doha, et on est là jusqu'à 1h justement en heure française.
Je m'en fous d'Auxerre, je suis à Paris.
Pardon, c'est pour donner des nouvelles.
Je suis chez toi, je suis sur ton siège, je me prends pour Gilbert.
T'es bien
assis d'habitude, toi. C'est le chef, voilà, le siège du boss.
Bah écoute, on prend toujours la meilleure chaise. Hein,
c'est normal. Ouais.
Alors,
t'as raison.
Avant d'accueillir Georges Quirino, je voudrais vous parler de l'état de santé de Pelé, qui inquiète tout le Brésil. Et alors, le Brésil joue après-demain, ici au Qatar. Et Pelé a été hospitalisé il y a quelques heures maintenant dans un hôpital de Sao Paulo. Il a 82 ans, il souffre d'un cancer. On parle également de confusion mentale. Alors, sa famille a été assez rassurante, mais enfin, tout de même, les nouvelles médicales ne sont pas très bonnes. Il suit une chimiothérapie qui ne donnerait pas de résultats. Voilà, la star du Brésil est très mal en point. Et évidemment... le jour de sa disparition sera sans doute un jour très funeste pour le Brésil, tant il a marqué l'histoire du pays, du foot.
Ce sera Maradona pour l'Argentine, et si ça tombe en pleine Coupe du Monde, le symbole va être immense, et pour les Brésiliens et pour les joueurs de la Seleção qui sont ici, qui évidemment mettront encore plus d'émotion dans leur match, comme pour lui rendre hommage, quoi, finalement. Ça peut être fort, et malheureusement, effectivement, les échos qu'on a donne à penser que c'est possible que ça arrive pendant cette Coupe du Monde.
Voilà, donc malheureusement, l'état de santé de Pelé n'est pas bon.
Et ça n'a rien à voir, parce que c'est pas du tout la même chose en termes d'état de santé, mais Neymar, même pour les huitièmes, ça va être bouillant. Attention.
Alors, puisque tu veux en parler, j'ai les infos. En fait, il y a même une chaîne au Brésil, TNT Sport, qui aujourd'hui a commencé à évoquer un forfait pour toute la compète.
Mais c'est fort probable. Je peux croire à ça.
Ils ont expliqué aujourd'hui qu'il y avait très peu de chances de voir Neymar déjà pour le 8e.
Ouais.
Alors, le dernier match, c'est déjà mort, hein, ça c'est sûr. 8e compliqué. Voilà, entorse de la cheville, je le rappelle, avec lésion ligamentaire.
Ouais, c'est juste le. Ah, lésion.
Oui.
Partielle.
Apparemment, il bosse tous les jours. Vous savez, dans la fameuse clinique. Aspetar ici, qui paraît-il pour les sportifs est la meilleure du monde.
Eux ils croisent avec.
Mené notamment par l'ancien.
Akim Salami. Eux ils croisent avec en huitième avec le groupe du Portugal. Donc c'est le deuxième de ce groupe-là. C'est un huitième qui est à la portée d'un Brésil même sans Neymar.
Ouais. C'est après pour le cas. Après ça va se compliquer.
Après ça devient plus compliqué.
En tout cas, voilà, les nouvelles sont pas bonnes concernant Neymar. Apparemment, son pied a dégonflé, mais il aurait des difficultés toujours, des douleurs, ligamentaires. Bon, évidemment, Lionel, la cheville pour un footeux.
Surtout lui, c'est un artiste. On le voit, il a une main à la place du, enfin, il a deux mains à la place des pieds. Donc, c'est tout le temps dans la dextérité. C'est beaucoup d'amplitude gestuelle et surtout au niveau des chevilles et des genoux et des hanches. Bon, voilà. Mais surtout les chevilles, il enveloppe le ballon, il fait tout ça. Il peut jouer. Alors tu peux jouer. Moi j'ai joué par exemple, mais j'étais gardien de but, mais où j'ai des copains qui ont joué attaquant avec t'as carrément un plat, tu mets un strapping, mais avec des étriers de tous les côtés, mais pas les créateurs quoi. Voilà, tu fais ça quand t'es stopper, gardien de but.
Kovacs.
Ouais, voilà. mais un créateur comme lui, tu peux pas le bloquer.
Broly, c'est ça, il pouvait jouer même en boot boots. Hein.
Mais voilà, on avait des parpaings nous à la place des pieds, donc ça nous changeait pas trop. Mais Neymar, ça va l'handicaper, c'est évident.
Ah oui.
Et puis,
t'as joué avec des mecs qui pouvaient jouer en chausseur de ski quand même.
Bah ouais, moi j'en avais un peu des fois.
Et puis encore un blessé, Nuno Mendes, le Portugais. Lui aussi pourrait très bien ne plus rejouer avant la fin de la Coupe du Monde.
Ça c'est plus prévisible. Ça, on l'avait
contracture
senti,
à la cuisse. Hein.
On l'avait senti ça. Ouais.
Donc là, pareil, à confirmer, mais il est.
Ah, si c'est contracture, il devrait pouvoir rejouer, mais c'est à mon avis,
c'est
plus.
C'est que les mecs du PSG, donc ils vont être à l'aise à ce pétard.
Ouais, bah là, ils ont leur marque là-bas.
Ah bah oui, ils sont à l'aise là-bas.
Oui. Non, mais ça, j'ai même pas fait.
Élongation, ça serait plus compliqué. Contracture, ça va encore, mais pour moi, il a plus une élongation vu comme il s'est comporté qu'une contracture.
Allez, l'Argentine maintenant, parce que là, l'Argentine, il y a un truc quand même incroyable qui se passe, c'est qu'on avait quitté Georges Quirino l'autre jour, il était en mode caca-culotte avant l'Arabie Saoudite, et puis là, l'Argentine ce soir, on a l'impression qu'on a une équipe complètement transformée.
Ça y est, ils vont commencer.
On en avait parlé, Daniel.
À nouveau, qui peuvent gagner la Coupe du Monde.
Et Georges,
c'est reparti.
Georges est avec nous, Georges Quirino Chavez, spécialiste du foot argentin en direct de Buenos Aires. Salut Georges.
On n'a jamais été inquiet ici. Salut à tous.
Oh, t'es un peu ton pipeau.
Non. Il y avait une grosse anxiété. Franchement, on a déjà l'impression d'avoir vécu 2 mois de Coupe du Monde ici, en fait. Tellement il s'est passé de choses avec cette sélection argentine qui avait perdu le match d'ouverture face à l'Arabie Saoudite, qui a gagné ce match de la mort face au Mexique où le niveau de jeu était vraiment pas terrible, mais l'important c'était de gagner. Et là aujourd'hui, c'était un peu le troisième acte où alors la Pologne était très faible. Je vous écoutais tout à l'heure et les spécialistes ici sont assez d'accord pour le dire, mais même si l'adversaire a été faible, ça a quand même permis à l'Argentine de se retrouver. C'est un peu le discours ici de tout le monde et des anciens joueurs de Messi il y a quelques instants qui dit on a réussi à retrouver notre jeu, on a retrouvé la mémoire, ce que l'on était, l'équipe qui a gagné la Copa América, l'équipe qui a enchaîné les 36 matchs consécutifs.
Mais est-ce que tu as revu l'Argentine que tu connais dans le jeu, Georges? Parce que moi j'ai été séduit par ce que j'ai vu ce soir. Est-ce que tu as retrouvé niveau que tu connais, t'es habitué à voir? C'est ce qu'on a vu ce soir, c'est le niveau de l'Argentine que tu connais?
C'est le niveau de l'Argentine qu'on a vu sur la phase éliminatoire pour la Coupe du Monde. C'était pas forcément celle de la Copa América. La dernière version était la meilleure, celle des 36 matchs consécutifs sans défaite, où justement il y avait de l'intensité, il y avait de la volonté d'être protagoniste tout le temps, d'aller vers l'avant, de toujours être dans ce jeu vertical. Et là, ils ont retrouvé ça en fait, Daniel, parce qu'ils ont retrouvé des joueurs qui leur permettent peut-être de rejouer ce jeu-là. On sait que l'absence de Lo Celso a posé beaucoup de problèmes à Scaloni, et là ça fait 2 matchs, il a mis Alexis McAllister de Brighton, qui aujourd'hui a encore fait un match hyper intéressant, ne parlons même pas de Enzo Fernandez, 21 ans, qui s'est installé dans ce milieu de terrain et qui je pense...
Et c'est fini, il ne bouge plus là.
Là je pense que aujourd'hui la demi-finale passe décisive, énorme volume de jeu, il permet justement de retrouver cette circulation fluide qui était le jeu de l'Argentine, ces passes courtes, cette verticalité, aller vers l'avant, mettre de l'intensité. Il a redonné l'ADN qu'avait l'Argentine justement. Il a même réactivé, on a l'impression, Rodrigo De Paul à côté de lui qui était complètement endormi depuis le début de la Coupe du Monde.
Il était bon
donc,
aujourd'hui.
C'est le garçon qui a redonné la mémoire. Ouais, il a été très bon et donc c'est a priori, je pense que Paredes, on l'a vu, il est rentré en cours de match, pas à la place d'Enzo Fernandez d'ailleurs, mais je pense que Enzo Fernandez désormais c'est le petit chouchou de toute l'Argentine, de tous les consultants. On a entendu Hernán Crespo, on a entendu Oscar Ruggeri, champion du monde 86 également, en parler il y a quelques instants. C'est le garçon. Et puis l'un des débats qui va peut-être aussi s'installer dans les prochains jours, c'est est-ce que Lautaro doit continuer d'être le numéro 9 de cette équipe, parce qu'on a vu aujourd'hui un très bon Julian Alvarez.
Il s'est créé beaucoup d'occasions.
Les deux jouent ensemble à River Plate. Exactement, et ces deux-là ont joué ensemble avec Enzo Fernandez, ils se connaissent par cœur.
Dybala, il part de loin.
Dybala. Ouais, mais Dybala, en fait, alors je sais que Jérôme en parlait aussi il y a quelques jours, Jérôme Rotten. En fait, Dybala, le problème, c'est que sur tout ce cycle Scaloni, qui compte une cinquantaine de matchs, il en a joué qu'une vingtaine, et à chaque fois que Scaloni l'a appelé, il était soit blessé, soit malade, soit il était pas en forme, et en fait, il a raté le train à chaque fois, en fait, Dybala. On l'a juste vu lors de la finalissima, vous savez, ce fameux match quand il est rentré 2 minutes, il est arrivé à cette Coupe du Monde, il était beaucoup blessé avec la Roma, il a joué qu'une moitié de match, Dybala, en fait, dans l'esprit de Scaloni, c'est le remplaçant de Messi. Et donc, en fait, à partir du moment où Messi ne sort pas, Scaloni l'a dit d'ailleurs quelques instants en conférence de presse, il dit, moi, si Messi ne me demande pas de le sortir, je le sortirai jamais. Donc, Dybala, il n'est pas prêt à rentrer, en fait.
Ah, donc, c'est toujours Messi qui
fait l'équipe. Ah oui, ça c'est sûr.
Même s'il n'y a plus notre ami...
J'aimerais qu'on parle 2 secondes de Di Maria. Qu'est-ce que tu en penses, Georges, de Di Maria? Dans quel état de forme tu le vois, toi? Moi, il passe pas grand-chose, hein, quand même.
Ah, moi je trouve quand même aujourd'hui tu l'as pas trouvé bon, je trouve qu'aujourd'hui
je pense
même,
qu'il peut faire évidemment beaucoup courses, mieux. Est-ce qu'il est capable de faire beaucoup mieux? C'est pour ça que je m'interrogeais sur son état de santé, son état de forme, parce que il vieillit quoi.
Alors,
mais je pense qu'il est capable de faire beaucoup
parce
mieux.
Parce qu'il était un peu touché.
Ouais.
Il est sorti parce qu'il était un peu touché au quadriceps, c'est ce qu'a dit Scaloni il y a quelques instants, donc il n'a pas voulu prendre de risques. Moi, je me pose la question, est-ce que, au fur et à mesure de cette compétition, Scaloni ne va pas le remettre dans une position de super sub, comme c'était le cas à la Copa América, où justement, en sortie de banc, en jouant 30-40 minutes, on voyait tout le
Di
Maria qui arrivait à faire les différences. Tu peux mettre, par exemple, pourquoi pas Julian Alvarez, justement, sur un côté, et comme ça, tu le fais jouer avec Lautaro Martinez. Pourquoi pas mettre un Dybala, peut-être aussi. Mais quand même, moi, j'ai du mal à croire qu'il le sorte du 11, parce que coup de cadre qu'il sort depuis le début de la Coupe du Monde. On sait qu'il a déjà sorti Paredes. Il a sorti Romero à un moment donné, qui était son cadre. Je pense même si là, il est revenu en force. Quand même, je vois Di Maria parmi les cadres. S'il le sort, c'est qu'il est pas bien physiquement. Sinon, je le vois quand même débuter les rencontres. Et aujourd'hui, il a été... moi, je trouve qu'il a été l'un des joueurs roméans. Aujourd'hui, je trouve que tout le collectif a été intéressant. Ce qui est surtout souligné par
la presse. Moi, ça m'a plu.
C'est
oui, ça m'a plu ce qu'ils ont
fait. On n'a pas eu un grand Messi. Daniel, je suis assez d'accord, mais on n'a pas eu un très grand Messi. En plus, il a raté un pénalty. On avait l'habitude de voir l'argent.
Franchement, les pénaux, ça devient pénible.
Là, pardon, il est bien tiré. Là, c'est.
Ouais, ok, mais enfin, bon, tu t'appelles Messi, le pénaux, tu le mets. Merde.
Bon, alors,
le pénaux, c'est un cadeau. Le pénaux, c'est un cadeau quand même.
C'est un pénaux spécial Messi, parce qu'il n'y a pas pénaux.
Il n'aurait jamais dû exister, le pénalty.
On ne peut pas mettre un coup dans le nez de Messi.
Je suis désolé, c'est la VAR qui a donné le pénaux. La VAR, c'est la justice.
Non, mais la VAR, aujourd'hui, ils ont fait un festival. En tout cas, ces quatre-là.
Non, moi je vous dis la justice, c'était les supporters argentins qui étaient à côté de moi, parce que j'ai suivi le match dans un bar avec des centaines de supporters argentins qui m'ont dit la justice, c'est on touche pas à Messi. À partir du moment où on touche à Messi. Donc,
d'accord.
C'est
bar,
Mais c'est comme ça qu'on l'a senti quand l'arbitre a dit péno.
Mais. Ouais, bien sûr. Mais moi, ce que je trouve intéressant, justement, c'est qu'avant l'Argentine, quand Messi ratait un penalty, Messi baissait la tête et c'est toute l'équipe qui baissait la tête. Là, on a vu Messi rater le penalty. Et lui il a dit allez vas-y c'est parti et derrière c'est l'équipe qui l'a porté finalement
et le stade le stade tout de suite dès qu'il a raté stade, c'était Messi ouais. le tout le monde enfin tous les supporters qui étaient de toute façon le stade il était argentin,
il y a que des argentins c'est une folie le nombre
mais la bonne réaction du stade des supporters et voilà ouais exactement ouais.
Non, il y a une énergie positive maintenant autour de cette équipe, c'est-à-dire que la pression négative a été aspirée du premier match.
Après ce que dit Maria,
ils se sentent quand même invincibles, ces garçons-là. Hein.
Je rejoindrai Daniel un petit peu. J'ai l'impression que il a perdu. Alors toi, tu me dis c'est peut-être une blessure ou quelque chose. Il ressent quelque chose, mais j'ai l'impression qu'il a perdu en vitesse et que le fait qu'il devienne au fur et à mesure de la Coupe du Monde peut-être un super sub pendant que les Dybala, Alvarez aussi qui peut jouer de son côté. Fatigueront son adversaire direct, lui peut rentrer et faire la différence. Moi, je le verrai plus aujourd'hui en rentrant et en faisant la différence en deuxième mi-temps, par exemple, dans la demi-heure, dernière demi-heure.
Je suis d'accord avec toi, Lionel. D'autant que Di Maria, en plus, il faut avoir en tête que son début de saison avec la Juve, il a joué que 10 matchs. Et il a joué des bouts de match à chaque fois, donc il a pratiquement jamais vraiment débuté à la Juve. Hein. Donc il arrive sur cette compétition un peu en cours de forme. Et en plus, le match, le huitième de finale face à l'Australie, c'est déjà samedi hein, pour les Argentins. D'ailleurs, ils râlent un peu en disant il n'y a que trois matchs, il n'y a que trois jours pour préparer cette rencontre. Donc est-ce que justement, dans l'enchaînement des matchs, est-ce que Scaloni ne va pas décider de faire souffler Di Maria pour mettre un autre joueur? On a vu aussi Thiago Almada rentrer, il y a aussi Angel Correa sur le banc. Donc il y a des possibilités, Scaloni. On a vu qu'il n'hésitait pas quand même à faire des changements. Il a à chaque fois fait 4 ou 5 changements par match. Donc même si on sent qu'il y a un 11 qui se dégage maintenant, voilà, il n'hésite pas s'il sent que les joueurs physiquement ne sont pas à 100% à peut-être sortir des cas. Donc,
ça sera surveillé. Les Argentins aiment les signes. Superstition. Voilà. Et là, donc, ils nous envoient les trucs, ils nous disent 78. Mario Kempes rate un pénal au troisième match. 86, Maradona rate un pénal au troisième match. 2022, Messi rate un pénal au troisième match.
Bah, d'ailleurs, je pense que Messi l'a fait exprès. Hey, Georges, tu nous fais une petite chanson qu'il y avait au stade là ce soir, le Muchachos Ahora Volvimos a Ilusionar.
Bien sûr.
Tu peux nous faire une chanson argentine.
La Mosca, la Mosca, c'est Muchachos. Ahora volvimos a ilusionar.
Plus fort là, t'as peur qu'il y a des gens qui vont rentrer tôt ou quoi?
Lâche-toi, nous on adore les chansons parce que nous on a que allez les bleus, allez les bleus.
Non, maintenant on a et une, et deux, et trois étoiles.
Pitié. Alors vas-y.
Même en gros, le refrain, c'est Muchachos, ahora nos volvimos a ilusionar. Les gars, maintenant, on va rêver à nouveau. Quiero ganar la tercera. Je veux gagner la troisième étoile. Quiero ser campeón mundial. Je veux être champion du monde. Y Diego, en el cielo lo podemos ver. Dans le ciel, on peut le voir. Con Don Diego y con la Tota. Ce sont les parents de Maradona. Alentándolo a Lionel. Ils encouragent Lionel. C'est-à-dire que Maradona et les parents de Diego.
Ils sont tellement forts.
Il met du Maradona dans tout, en fait.
Ah oui, c'est normal. C'est Dieu qui éclaire Lionel.
Il y en a plein, bien sûr. Merci.
Et on sait qu'il écrit ses chansons.
Tu es en train de chanter à la radio française. Qu'est-ce qui t'arrive?
Georges, qui écrit ses chansons?
C'est les supporters. Alors c'est que souvent c'était les Barras Bravas qui sont pas à la Coupe du Monde, les sortes d'ultra argentins. Ils ont pas été conviés parce qu'il y en a eu 6000 qui ont été interdits de voyage par le gouvernement argentin. Mais sinon, bah, c'est des supporters comme ça. C'est en fait c'est dans des déplacements. Moi j'en ai rencontré quelques uns avant la Coupe du Monde. Ils ont acheté 2-3 bombos et ils ont dit bon vas-y on va créer quelques chansons. Il y en a plein des chansons hein, comme ça.
Ils font ça sur des airs connus de chansons populaires ou comment ils font?
Ouais bien sûr. Ouais exactement. C'est sur des, alors soit sur des airs de cumbia justement c'est un peu la musique populaire ici, soit sur des airs de rock argentin. C'est que le rock argentin est très populaire. Et c'est toujours sur des chants comme ça. Alors après, c'est que par exemple les supporters qui viennent de San Lorenzo, un des clubs de la capitale, est un des plus inventifs. Et je sais plus, ils avaient fait par exemple une chanson sur un air de Despacito, tu te rappelles Despacito. Donc, mais en fait le truc c'est que dès qu'il y a une nouvelle chanson dans les groupes de supporters et les groupes WhatsApp, en fait ça passe très très vite comme ça. C'est-à-dire qu'en gros ils se passent la chanson, ils se passent la chanson. Et très vite, ça prend. Les
supporters français devraient s'en inspirer.
Je comprends pas comment, mais d'un coup, il y a 90 000 mecs. Non, mais du coup, t'as 80 000 mecs qui connaissent une chanson qui a été sortie la veille, quoi. Donc, c'est assez impressionnant. Et c'est vrai que ce qui est surtout super, c'est que ça raconte des histoires, en fait. C'est surtout ça qui est bon.
Le chambrage est une institution dans le foot sud-américain. En France, l'autre jour, on avait des supporters qui nous racontaient quand ils ont lancé Qui ne saute pas n'est pas danois. Alors, on dit non, on ne peut pas dire ça. Il faut faire Qui ne saute pas n'est pas français. Mais franchement, les Danois n'ont pas les.
Bon, après, c'est tranquille. Bon, ici, l'un des.
Qui ne saute pas est un danois, interdit.
Non. Ici, l'un des chants les plus fameux, c'est El que no salta es un inglés. Celui qui ne saute pas un anglais, justement, en rapport à la guerre des Malouines. C'est l'un des chants des supporters argentins. À chaque fois qu'il faut redonner de l'énergie, on rappelle la guerre des Malouines, le côté patriotique et tout ça. Pour réactiver, mais il y en a plein de chansons. On pourra se faire une spéciale chanson un jour si vous voulez.
Bah avec plaisir. Par contre, faudra que tu chantes pour de vrai. Pas que tu murmures, style, j'ai la honte, tu vois.
Faut lâcher un peu, faut envoyer.
Juste pour savoir, excuse-moi, t'es en Argentine là? Toi, tu vis là-bas?
Ouais, bien sûr.
Donc, l'ambiance, c'était quoi? C'était toutes les fenêtres ouvertes, t'entends que les matchs partout, personne dans la rue, j'imagine.
En gros, moi, je te dis, le match était à 16h ici aujourd'hui. Je suis sorti à 15h30 pour aller dans un bar suivre le match ici dans le quartier de Recoleta, dans les quartiers centraux. Tout le monde courait dans la rue à 15h30. Tout le monde courait. Quitter le travail. Tout le monde a fermé la boutique. Les collèges ont fermé également. Les gamins sont sortis de l'école pour aller suivre le match.
Ouais, ils ferment les écoles et tout. Ils finissent avant.
Les écoles, exactement. Et pendant le match, je suis en plein cœur de la ville en plus. T'entends toute la ville criait en fait. C'est-à-dire, moi j'étais dans un bar, alors il se trouve que dans ce bar il y avait 5 secondes de décalage, je pense, de retard avec toutes les télés du quartier, ce qui fait que t'entendais tout le quartier gueuler avant et t'as tous les supporters qui sortaient dans les balcons pour fêter ça. Et à la fin du match, tous les bus et tout ça en train de klaxonner, c'est ambiance finale de Coupe du Monde, il y a des gens ce soir à l'obélisque.
En revanche, il y a une tradition, c'est que les supporters argentins, quand ils se déplacent à la Coupe du Monde, ils sont parfois un peu en mode zadiste hein, quand même. Je ne sais pas si tu les as vus ici à Doha. Et moi, j'ai souvenir au Brésil.
Ouais, ils sont à l'arrache. Ouais.
Au Brésil, d'avoir vu des gars, ils venaient avec des vieux camping-cars tout pourris, tu sais, argentins.
Là, ils n'ont pas pu venir.
Et en fait, leur délire, c'était d'aller à Copacabana, de garer leur camping-car en face de la plage, et après de le laisser et de rentrer en avion. Tu sais, genre, démerdez-vous avec nos vieux camping-cars pourris, sûr, on vous les laisse ici.
Alors moi,
il y avait des trucs qui puaient, c'était infâme.
Vas-y. Parce que je suis proche des supporters argentins, parce que j'en ai suivi quelques-uns avant de partir, et je suis toujours en contact avec eux. La plupart, ils sont logés dans un lotissement qui est à 30 bornes au sud de Doha, qui s'appelle le Baroua. En fait, c'est le lotissement le moins cher de toute la Coupe du Monde. C'est genre l'espèce de préfabriqué tout pourri. Ils ont deux lits par chambre et juste.
C'est là où était Dominique, je crois.
Peut-être.
Dans des bungalows.
C'est les containers.
Les containers.
Ouais. Non, mais je crois que c'est encore pire que ça. Et en fait, là-bas, ils font des tours. En fait, ils font des tournois de foot. Ils ont créé un espèce de quartier argentin. Et on me racontait qu'ils ont volé des caddies des supermarchés, en fait, pour mettre du charbon dans les caddies, et que ça leur sert de barbecue.
Barbecue.
Ils mettent au-dessus du caddie.
Mais où ils ont trouvé la viande? Parce que je suis allé au supermarché et tout, j'ai pas vu de la viande pour barbecue.
Ouais.
La
viande. Ah, eux, ils ont peut-être.
Peut-être ils ont buté trois chameaux là. Ils ont fait un sado de chameaux.
Ça m'étonnerait pas.
Merci Jean.
Franchement, des parkings à chameaux, j'en ai vu.
C'est vrai.
Ah ouais. Mais comment ça?
Tu Il garde son chameau.
Parking à chameau. Ouais, ouais, il y a le parking Vinci Chameau.
Ouais, comme un parking avec des chameaux.
Mais non.
Rangés. Mais ça, c'est vrai.
Mais là, mais il n'y a pas Vinci Chameau.
Non, mais tu gardes ton chameau devant.
Il y a des parkings à chameau. C'est des bouts de terre. Enfin, les chameaux sont rangés les uns à côté des autres.
Il y a des parades de chameaux.
Comme des enclos, quoi.
C'est comme des parkings. Ils sont capables de retrouver leur chameau derrière. Ils ont un truc pour le retrouver.
Oui, je pense que tu le retrouves et tout. Enfin, je sais pas, oui, mais j'ai vu ça.
C'est là où tu mets l'embrouille. Tu sais, tu les mélanges quand tu
as fait les photos. J'ai même fait des photos avec Jérôme. On vous enverra les photos.
Genre, je méfie toi parce que si tu croises un chameau en Argentine, les chameaux, ça a une très mauvaise haleine. Je te le dis.
Enfin, il va pas s'approcher la gueule du
d'où
chameau.
L'expression.
Du
a priori. D'où l'expression.
Ouais, mais tu la sens très loin. Merci Georges, bonne soirée.
Moi, je sais pas, vous en pensez ce que vous voulez, au-delà des affinités des uns et des autres, mais la passion pour le foot, le romantisme pour ce sport et ce qu'on aime de ce sport, je pense, je serais pas malheureux si l'Argentine était championne du monde.
Allez, dans quelques instants, on parle de l'Australie.
Un truc particulier quand même.
L'Australie qui se qualifie ce soir et qui fait la fête en pleine nuit, puisqu'il était 4h du matin à Sydney. L'Australie dans quelques instants dans l'after, avant la libre antenne.